France Musique. Musicopolis. Janvier 1843, Dresde. L'opéra de Dresde est tout neuf. Il n'y a même pas deux ans qu'il a été inauguré en grande pompe. Son architecte, Gottfried Semper, a voulu un édifice de style Renaissance et une salle magnifique, or et rouge. Trois étages de loges, avec encore deux balcons qui accueillent des spectateurs jusqu'au plafond doré. Le roi Frédéric Auguste II de Saxe a vu les choses en grand. Chaque année, la maison représente 35 à 40 opéras différents, dont une quinzaine de nouveautés. Le jeune Richard Wagner, 29 ans, a le vent en poupe. On avait déjà créé son Rienzi le 20 octobre dernier. Le 2 janvier 1943, c'est le tour du vaisseau fantôme. Le 5 janvier 1843, Richard Wagner écrit à sa sœur Cécilie pour lui parler du succès des représentations du vaisseau fantôme. La deuxième a eu lieu hier et j'ai obtenu un triomphe. L'enthousiasme s'est encore accru et de nouveau, j'ai été rappelée deux fois avec les chanteurs. La première fois, j'ai laissé les chanteurs revenir seuls. Mais comme le public ne se calmait pas, j'ai dû, après eux, ressortir tout seul. Le succès de l'opéra est confirmé par Hector Berlioz, de passage à Dresde à la fin du mois de janvier 1943, et qui a l'occasion de voir les deux créations de Wagner. Il écrit « La partition du vaisseau hollandais m'a semblé remarquable par son coloris sombre et certains effets orageux parfaitement motivés par le sujet. Il faut, ajoute-t-il, honorer la pensée royale qui, en lui accordant une protection complète et active, a pour ainsi dire sauvé un jeune artiste doué de précieuses facultés. » Richard Wagner, outre son double talent littéraire et musical, possède encore celui de chef d'orchestre. Je l'ai vu diriger ses opéras avec une énergie et une précision peu communes. L'administration du théâtre de Dresde n'a rien négligé, d'ailleurs, pour donner tout l'éclat possible à la représentation. Comme on l'entend dès l'ouverture, et comme on s'en doute d'après le titre, le vaisseau fantôme, nous sommes au bord de la mer. Le bateau de Daland a été détourné par une tempête et s'est réfugié près d'un rivage rocheux escarpé. Dans la première scène, les marins sont occupés à carguer les voiles et jeter des cordages. Martin Gregor Delin, biographe de Wagner, donne la liste des décors utilisés pour la première du vaisseau fantôme. Pour le premier acte, la toile de fond vient de l'Oberon de Weber, auquel on a emprunté aussi les mâts. Et les deux bateaux viennent du ballet Le Pirate. En revanche, on n'a pas trouvé de rochers dénudés. Il faudra se contenter de ces décors recyclés. Apparemment, le public ne s'en est pas plaint. Le personnage principal de l'opéra est un Hollandais. Le second titre de l'œuvre, qui est également le titre allemand, est d'ailleurs le Hollandais volant. Certains l'appellent aussi parfois le Hollandais errant. Bref, l'histoire est celle d'un Hollandais qui erre sur la mer à bord de son vaisseau fantôme. Il est condamné à ne pas mourir et il n'aborde à terre qu'une fois tous les 7 ans à la recherche de la femme qui le délivrera en lui étant fidèle jusque dans la mort. Si un musicien connaît quelque chose à l'errance et peut s'identifier au Hollandais volant, c'est bien le jeune Richard Wagner. Lorsqu'il dirige la création du vaisseau fantôme en janvier 1843, il n'est toujours pas fixé. Né à Leipzig, il a fait une partie de sa formation à Dresde. Il a eu un poste à Würzburg, il a voyagé en Bohême, il est ensuite directeur de la musique à Magdebourg, puis il voyage à Königsberg, à Berlin, il est directeur de la musique à Riga, il s'enfuit jusqu'à Londres, atterrit à Paris, où il reste 2 ans avant de revenir à Dresde. Encore loin d'être installé. Remontons le temps jusqu'aux origines du vaisseau fantôme. Le 19 juillet 1839, Wagner, son épouse Mina et leur chien Robert embarquent sur la Thétis, un navire marchand qui leur permet de fuir Riga, le dernier poste de Wagner où il est insatisfait et couvert de dettes. La Thétis doit voguer jusqu'à Londres, d'où les Wagner repartiront pour Paris. Mais le 27 juillet, une terrible tempête se lève. Wagner assiste sur le pont au déchaînement des éléments, avant d'être la proie d'un mal de mer atroce qui le laisse prostré. Dans les mugissements du vent et les sifflements des cordages, au milieu de la houle et des embruns, il a cru distinguer un bateau qui est aussitôt disparu dans la nuit. Voilà qui confirme la légende du Hollandais volant que lui ont raconté les marins. La statue de Thétis à la proue du bateau s'est abîmée dans les flots, mais le navire réussit à jeter l'ancre dans un fjord de Norvège, à Sandvik. Réjouissance de marin. Le voyage de Wagner se poursuit sans autre drame jusqu'à Londres. Mais il a été très impressionné par ses jours de tempête à bord de la Thétis, par les paysages sauvages et découpés des fjords norvégiens, par les rudes champs de marins. La petite famille se rend ensuite à Paris, après une étape à Boulogne-sur-Mer où le compositeur rencontre Meyerbeer, alors pape de l'opéra à Paris. Meyerbeer qui l'encourage vivement et l'assure de sa recommandation. À Paris pourtant, le jeune musicien va user ses derniers sous et chercher désespérément à se faire entendre des directeurs de théâtre et d'opéra. Rien n'avance. Il écrit quelques articles mal payés. Il repense à une nouvelle qu'il a lue l'année précédente, « Mémoire de Monsieur de Schnabelewopski » de Heine. Dans un théâtre d'Amsterdam, le héros assiste à une représentation d'une pièce sur le Hollandais maudit. Wagner, inspiré par son voyage sur la Thétis, décide d'en tirer un livret et il met déjà en musique « Le cœur des marins » et « La ballade de Zenta ». Zenta chante l'histoire de ce marin, le Hollandais maudit, dont le portrait est accroché au mur de la pièce où elle file avec les autres jeunes filles du village. Emportée par un enthousiasme subi, dit le livret, elle se lève d'un bond. « Je veux être celle qui, par sa fidélité, te sauve. Puisse un ange de Dieu me montrer à toi. Par moi, tu seras délivrée. » Wagner a montré au directeur de l'opéra l'ébauche du livret qu'il a écrit en arrivant à Paris sur le Hollandais volant. L'ébauche a plu, mais le directeur veut la faire mettre en musique par un autre compositeur. Il a des obligations et des commandes pour les 7 prochaines années, il ne peut absolument pas faire affaire avec Wagner. Qu'à cela ne tienne, le jeune compositeur a de tels soucis d'argent qu'il accepte les 500 francs offerts pour son texte. Il va sortir pour un temps de la misère noire dans laquelle il était en train de s'enfoncer. Il habite avec Mina à Meudon. Il va pouvoir faire venir un piano et se mettre au travail. lorsque le Hollandais et Zenta se rencontrent enfin à la troisième scène du deuxième acte du vaisseau fantôme, ils sont comme pétrifiés d'amour. Ils se découvrent dans un long duo, n'osant croire à ce qui leur arrive. « Le salut, puisses-tu, malheureux, l'obtenir par moi ?» chante Zenta. « Puissé-je l'obtenir par un ange comme elle ?» chante le Hollandais. Lorsqu'enfin Wagner dispose d'un piano et qu'il peut se mettre au travail sur son vaisseau fantôme, l'inspiration lui vient immédiatement. Il écrit dans son autobiographie « Je ressentis une joie folle à constater que je savais encore composer. Toute la musique de l'opéra fut écrite en 7 semaines. Il ne restait plus qu'à l'instrumenter. Alors ce fut en moi un vrai renouveau. Ma bonne humeur remplit chacun d'étonnement. Je faisais de grandes promenades dans les bois de Meudon et je m'entendais même à aider Mina dans la cueillette des champignons. »
Oh,
les marins norvégiens se réjouissent d'être rentrés à bon port. Ils invitent leurs collègues du bateau étranger à les rejoindre. Après un long moment, les Hollandais répondent enfin, mais leur chant est inquiétant. Une fois achevé son vaisseau fantôme, Wagner doit encore trouver un théâtre qui veuille bien le monter. Et puis, il a encore à faire représenter Rienzi, son précédent ouvrage. C'est finalement à Dresde que les deux œuvres seront créées à 2 mois d'intervalle. La grande Wilhelmine Schröder-Devrient va chanter le rôle de Zenta. Pourtant, elle se plaint de Wächter, le baryton qui incarne le Hollandais. Dans une des répétitions, se souvient le compositeur, elle interrompit la grande scène du deuxième acte à l'instant où elle devait s'avancer vers lui avec le geste d'un ange tutélaire qui annonce le salut suprême. Elle se détourna tout à coup et me souffla violemment à l'oreille. « Comment lui chanter cela quand je vois ses petits yeux de gorée ? Mon Dieu, Wagner, qu'avez-vous fait là ?» Je la consolai de mon mieux et mis mon espoir en monsieur de Münchhausen, son amant, qui me promit de prendre place au parquet le soir de la représentation de façon à être aperçu de la Devrient. Et en effet, malgré l'abominable néant de la scène, la grande artiste réussit au second acte à captiver tout à fait le public enthousiasmé.
Kennt die Schiff, das Recken aller Frommen, den fliegenden Holländer nennt man mich.
Noch oben, noch oben, noch oben,
Zenta s'est jetée dans la mer. La fin du vaisseau fantôme de Richard Wagner, avec Cheryl Studer en Zenta, le chœur et l'orchestre de l'opéra allemand de Berlin, dirigé par Giuseppe Sinopoli. Programme, la réécoute et le podcast sont sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Notre grande petite équipe était composée aujourd'hui de Bernard Laniel pour le mixage, Philippe Petit pour la réalisation et Max Dosolm et Valentin Carpentier pour les recherches et le site.
À réécouter sur francemusique.fr.